Nous allons maintenant ouvrir la parole de Dieu et méditer cette parole qui nous a été donnée par Dieu pour nous enseigner et nous diriger, nous conduire dans la vie nouvelle. Nous lirons dans le premier livre de Samuel au chapitre 9. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Tseror, fils de Bécorath, fils d'Aphiach, fils d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Les ânes de Kis, père de Saül, s'égarèrent, et Kis dit à Saül, son fils, « Prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va, et cherche les ânes. » Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays de Shalisha sans les trouver. Ils passèrent par le pays de Shaalim et ils n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin et ils ne les trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Tsup. Lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, « Viens, retournons, de peur que mon père, oubliant les ânes, ne soit en peine de nous. » Le serviteur lui dit, « Voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. » Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Saül dit à son serviteur, « Mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu ? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs, et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons ?» Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, « Voici, j'ai sur moi le quart d'un sicle d'argent. » Je le donnerai à l'homme de Dieu, et il nous indiquera notre chemin. Autrefois, en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, « Venez et allons au voyant. » Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Saül dit à son serviteur, « Tu as raison, viens, allons. » Et ils se rendirent à la ville où était l'homme de Dieu. Comme ils montaient à la ville, ils rencontrèrent des jeunes filles sorties pour puiser de l'eau, et ils leur dirent, « Le voyant est-il ici ?» Elles leur répondirent en disant, « Oui, il est devant toi, mais va promptement, car aujourd'hui il est venu à la ville, parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple sur le haut lieu. Quand vous serez entrés dans la ville, vous le trouverez, avant qu'il monte au haut lieu pour manger, car le peuple ne mangera point qu'il ne soit arrivé, parce qu'il doit bénir le sacrifice, après quoi les conviés mangeront. Montez donc, car maintenant vous le trouverez. » Et ils montèrent à la ville. Ils étaient arrivés au milieu de la ville quand ils furent rencontrés par Samuel, qui sortait pour monter au haut lieu. Or, un jour, avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, « Demain, à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu l'oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. » Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, « Voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui règnera sur mon peuple. » Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit, « Indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant. » Samuel répondit à Saül, « C'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu et vous mangerez aujourd'hui avec moi, je te laisserai partir demain. » Et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Ne t'inquiète pas des ânes que tu as perdus, il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël? N'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? Saül répondit, « Ne suis-je pas benjamite de l'une des plus petites tribus d'Israël? Et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte ?» Samuel prit Saül et son serviteur, les fit entrer dans la salle et leur donna une place à la tête des conviés qui étaient environ 30 hommes. Samuel dit au cuisinier, « Serre la portion que je t'ai donnée en te disant, mets-la à part. » Le cuisinier donna l'épaule et ce qui en l'entoure, et il la servit à Saül. Et Samuel dit, « Voici ce qui a été réservé, mets-le devant toi et mange, car on l'a gardé pour toi lorsque j'ai convié le peuple. » Ainsi Saül mangea avec Samuel ce jour-là. Ils descendirent du haut lieu à la ville et Samuel s'entretint avec Saül sur le toit. Puis ils se levèrent de bon matin et dès l'aurore Samuel appela Saül sur le toit et dit « Viens et je te laisserai partir ». Saül se leva et ils sortirent tous deux, lui et Samuel. Quand ils furent descendus à l'extrémité de la ville, Samuel dit à Saül, « Dis à ton serviteur de passer devant nous. » Et le serviteur passa devant. « Arrête-toi maintenant, » reprit Samuel, « et je te ferai entendre la parole de Dieu. » Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül, il le baisa, et dit, « L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de mon héritage ?» Amen. Toutes ces choses ont été écrites, j'aime à le rappeler, et il le faut. Que notre pensée soit toujours celle-là lorsque nous consultons la parole de Dieu dans l'Ancien Testament. Elles ont été écrites pour notre instruction à nous, l'Église. Cela est formellement dit. Que trouvons-nous dans ce récit? Une chose étonnante, c'est qu'il y a là le déroulement d'un plan de Dieu, mais le déroulement qui vient, on peut dire, en son accomplissement essentiel, un déroulement du plan de Dieu, et l'on est un point particulier de ce déroulement. Samuel vient d'être instruit par Dieu la veille, un jour avant l'arrivée de Saül. L'Éternel avait averti Samuel, « Demain à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin et tu l'oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Demain, je t'enverrai un homme. » Et lorsque Samuel aperçoit Saül, alors l'Éternel lui dit, tu vois cet homme, c'est lui dont je t'ai parlé hier, que je t'envoie, c'est lui. Voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui règnera sur mon peuple. Samuel, le prophète, est donc instruit du plan de Dieu, tout au moins de ce moment décisif dans le plan de Dieu. Et même Samuel sait ce qui se passe dans le cœur de Saül. Et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Ce n'est pas toujours fréquent que l'on puisse obtenir de Dieu un discernement allant plonger jusque dans la pensée de ceux que l'on a en face de soi, que le Seigneur met en face de soi. Mais cela arrive. Mais cela arrive. C'est magnifique, c'est extraordinaire. Cela arrive. Je ne vais pas vous dire les circonstances dans lesquelles j'ai vu se produire cela. Mais cela arrive de nos jours, chers amis. Seulement cela arrive, bien sûr, au milieu d'une église qui a la foi, qui s'attend toujours aux directions de Dieu. Le prophète ici est donc un intermédiaire entre Dieu et Saül. Le prophète reçoit de Dieu communication de ce qu'il doit faire, et il reçoit même communication des pensées, une vue de prophète, de voyant vraiment qui plonge dans le cœur de cet homme que Dieu envoie au prophète. Pour nous, nous avons bien sûr dans le cadre de la Nouvelle Alliance un intermédiaire, un médiateur, et ce médiateur c'est Jésus-Christ qui lui bien sûr en tout temps plonge dans nos pensées, sont les cœurs et les reins, comme il l'a bien montré au cours de son ministère terrestre, mais il l'exerce maintenant, ils sont nos cœurs et nos reins. Et c'est une chose que nous ne devrions pas trop classer rapidement, dans les choses connues, dans les choses apprises, sues, et dont nous ne nous servons pas beaucoup. Nous devons au contraire avoir toujours présent à l'esprit ce privilège, je dirais, cet attribut que Jésus exerce, attribut divin, de sonder nos cœurs et nos reins, mes amis. Je pense que cette pensée serait susceptible à certains moments de nous confondre, de nous retenir aussi, mais surtout de nous confondre. Saül, lui, c'est un jeune homme qui sait très bien qu'il est d'une très modeste famille et d'une tribu très modeste aussi, c'est la plus humble, la plus petite, et pour des raisons historiques même, la tribu la moins bien regardée du peuple d'Israël. Il sait tout cela, et sur le moment, il est embarrassé de certaines circonstances où il se trouve, les ânesses. Son père lui a dit d'aller rechercher les ânesses qui sont parties, se sont égarées. Les ânesses, cela représentait une valeur dans une humble famille, et il est à la recherche avec un serviteur de ces ânesses. Il est donc préoccupé par cela, et il arrive devant le prophète qui lui dit « Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. » Tout est réglé. Il arrive devant l'homme de Dieu et il apprend que tout est réglé, c'est fini, il n'y a plus besoin de se préoccuper des ânesses, de courir après, d'échafauder peut-être des plans pour s'efforcer de les retrouver. Elles sont retrouvées. Comment sont-elles retrouvées? Bien sûr, nous ne dirons pas mystère, mais nous dirons action de Dieu. Dieu l'a voulu. Dieu a voulu qu'elles soient perdues. Ah oui, Dieu se sert de circonstances qu'il fait naître. Il fait naître des circonstances devant nous. Et puis, il les règle aussi. Il leur donne un aboutissement. Elles sont retrouvées maintenant, les ânesses. Tu n'as plus besoin de te préoccuper de cela. Mais cela t'a amené devant le prophète. Cela t'a amené devant l'homme de Dieu. Et mes amis, à l'origine de notre vie chrétienne, je dis à l'origine, mais attention, je ne m'en tiendrai pas à cela. À l'origine de notre vie chrétienne, qu'il n'y a pas eu aussi des circonstances dont nous n'avons pas discerné peut-être la provenance ou le sens, qui nous ont amenés quelque part, où Dieu nous voulait, où Dieu avait besoin de nous dire « Écoute, maintenant dans ta vie, tout est réglé. Toutes tes préoccupations, toutes tes pensées, c'est fini, c'est réglé, c'est fini. J'en ai fait mon affaire, c'est réglé. » Mais dans notre vie chrétienne, je m'empresse de le dire, dans notre vie chrétienne, il y a et il y aura, et il faut qu'il y ait des circonstances aussi, et que Dieu aura préparées, et qui nous conduiront. Dieu nous conduit par le cœur. Il nous conduit par le cœur, mais il se sert des circonstances et qui sont là, et qui apparaissent, qui nous entourent, afin de nous amener à un endroit où nous allons pouvoir exercer la foi. Alors Saül va sortir de son problème, mais il va se trouver
devant une autre préoccupation, une préoccupation plus élevée. Il va voir, soudain, à son grand étonnement, apparaître devant lui une tâche tout autre que celle qu'il avait dans la maison de son père, une tâche plus haute, plus élevée, une tâche qui va le rapprocher de Dieu, une tâche qui va même le lier à Dieu, une tâche qui va le mettre au service de Dieu, la royauté. La royauté, voilà que soudain, la royauté se présente. On lui donne, on lui apporte la royauté de la part de Dieu. Dieu nous saisit toujours, bien sûr, dans la vie matérielle et terrestre. Il nous sort toujours de nos préoccupations. Dans le cours de notre vie chrétienne, il faut même encore, il ne faudrait peut-être pas tout de même abuser de cela, mais dans sa bonté, Dieu intervient encore pour nous sortir de nos préoccupations, parce que généralement, nos préoccupations retombent sur la terre. Elles retournent aux aléas insignifiants, souvent, de l'existence. Alors, nous sommes tenus, nous sommes préoccupés par cela. Il faut que Dieu intervienne pour nous sortir de nos préoccupations et pour nous conduire là où est notre vocation, là où il l'a placée, pour nous conduire à le servir auprès des autres hommes. Car même si nous travaillons à affermir notre salut, comme Paul le dit, travaillez à votre salut, mettez en acte votre salut, nous travaillons aussi pour les autres. Mes amis, sachons bien ceci, c'est que si nous, par la foi, nous nous laissons mettre, établir, à notre place, à la place que Dieu nous a réservée, nous a préparée, nous travaillerons aussi pour les autres. Si nous ne sommes pas à notre place, nous ne travaillerons jamais pour les autres, n'aurons jamais de véritable royauté ou de sacerdoce royal à exercer. Alors le Seigneur nous conduira à le servir dans une activité supérieure, dans une activité dont l'essence est spirituelle. Même si cette activité comporte des actes concrets, mais elle sera d'essence spirituelle, cette activité. Il nous fera travailler en vue de l'éternité, en vue de ce qui subsiste pour la vie éternelle. Le Seigneur Jésus l'a assez dit à son Église, travaillez donc pour ce qui subsiste jusqu'en vie éternelle, et ne restez pas toujours le nez sur vos petits problèmes terrestres qui n'ont pas d'aboutissement. Tout cela se réglera, cherchez le royaume de Dieu avant toute chose et la justice de Dieu et les choses nécessaires à la vie. Mais oui, elles viendront, le Père vous les donnera. Le Père, lui, entrera dans vos petites préoccupations de l'existence. Il entrera là, lui, parce qu'il peut y entrer sans s'y trouver prisonnier. Tandis que nous, si vraiment nous nous consacrons à nos petites activités, nous en serons les prisonniers. Et alors nous nous couperons de toute perspective élevée, de toute tâche élevée, spirituelle, supérieure, sans préoccuper de notre personne, d'aujourd'hui, de tout à l'heure, de demain, des petites choses nécessaires. Nous serons préoccupés de ce qui périt uniquement. Et nous aurons perdu complètement contact avec la tâche élevée, avec le sacerdoce royal de tous les enfants de Dieu. C'est une action royale que Dieu veut nous faire exercer au-dessus de notre temps. Déjà, nous l'avons dit ici, le Seigneur nous élève au-dessus du temps, au-dessus de l'emprise du temps. Il nous élève au-dessus du temps, puisque nous travaillons pour ce qui subsiste jusqu'en vie éternelle. Et nous-mêmes, nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il nous place au-dessus du temps. Lui, il est hors du temps, nous le savons. C'est la grande position privilégiée du Créateur. Mais il veut, lui, déjà, par Jésus-Christ, nous placer au-dessus du temps. Et il va nous placer au-dessus de notre milieu. Et il va nous placer au-dessus de nous-mêmes. Les ânes sont retrouvés. Dieu s'en est chargé à réaliser la chose facilement, très facilement. Mais maintenant, envisage autre chose. Ton Dieu te dit, tu seras roi. Et après cette journée dans laquelle se déroule le sacrifice sur le haut lieu, le lendemain, de bon matin, Samuel appela Saül sur le toit et dit, « Viens, je te laisserai partir. » Saül se leva et ils sortirent tous deux, lui et Samuel. Quand ils furent descendus à l'extrémité de la ville, Samuel dit à Saül, « Dis à ton serviteur de passer devant nous, qu'il s'éloigne un peu de nous. » Et le serviteur passa devant. « Maintenant, arrête-toi. Arrête-toi. Et je te ferai entendre la parole de Dieu. Arrête-toi. » Tout passe si vite dans cette vie, comme nous le dit d'ailleurs un psaume que nous pourrions lire, le psaume 90, verset 3. Tout passe si vite. 90, verset 3. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière, et tu dis, fils de l'homme, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit, tu les emportes, semblable à un songe qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe, on la coupe le soir et elle sèche. Voilà un aperçu qui n'est pas philosophique, mais qui est selon la vérité, selon la vue de Dieu, un aperçu du temps, de notre vie, et qui est conditionné par le temps. Tout cela passe, ça passe très vite, très très vite, et nous pourrons arriver au terme de notre vie en disant, je n'ai pas eu le temps. N'ai vraiment pas eu le temps. Oh, j'aurais voulu faire tant de choses. Combien y a-t-il d'hommes qui avaient en vue de grands projets, de grandes réalisations, et qui sont arrivés au soir de leur vie, n'ayant pu réaliser que bien peu de choses. Arrête-toi, nous dit le Seigneur, nous dit l'Esprit du Seigneur. Arrête-toi pour réfléchir, méditer, pour demander à Dieu ce qu'il a préparé pour toi. Tu marches constamment, tu vas, tu te laisses entraîner, tu suis le troupeau humain sur cette terre. Tes pensées suivent aussi le cours, le fil des événements et du temps, mais tu n'as pas le temps de méditer, tu ne sais pas. Ton Dieu ne peut pas te parler, ne peut pas te faire entendre sa parole, mais arrête-toi. Arrête-toi. Ah, chers amis, quel conseil de la sagesse de Dieu, arrête-toi. Mais oui, chers amis, dans l'Église, nous sommes obligés de le voir, de le reconnaître, de le constater avec peine, avec effroi, même souvent. Il y a tant de chrétiens à qui on peut dire, mais il te faudrait quelque chose, toi, il te faudrait un temps mis à part, quelques jours seulement. Mais je ne peux pas, mais il n'y a rien à faire, j'ai ceci, j'ai cela, je ne peux pas. Tiens, il y a une réunion aujourd'hui, elle te serait nécessaire, cette réunion. Mais j'ai pas le temps, mais je peux pas y aller. Oh, chers amis, alors nous reprochons ça aux gens du dehors. Ils n'ont pas le temps de connaître Jésus. Et nous qui avons connu Jésus, est-ce que nous prenons le temps de le servir et d'entendre sa parole? Nous n'avons pas le temps. Ah, le matin, on se lève, vite, 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 il faut partir. On arrive à midi. Ah, midi, alors, il y a un peu les exigences du conditionnement technique, technologique de la vie. Il y a la radio, il y a le journal, où il y a la télé. La télé, qui elle aussi prend une bonne place, hein, et qui veut toujours dévorer davantage du temps. Moi, je ne l'ai pas, la télé. Je ne l'ai pas. Et j'en veux pas. Et j'en veux pas. Parce que elle m'empêcherait de m'arrêter. Elle m'empêcherait d'écouter Dieu. J'ai pas besoin de faire son procès, j'ai simplement que cela à dire. Arrête-toi pour méditer, pour demander à Dieu. Oublie! Oublie ce que l'on t'a dit ce matin, ce que tu as fait ce matin. Confie cela à Dieu. Il y a des problèmes dans tout cela. Oh, bien sûr, ton activité, elle est remplie de problèmes. Il y en a, après l'un, c'est l'autre. Quand tu as fini de résoudre celui-là, l'autre vient. Mais arrête-toi. Arrête-toi pour vivre. Et la vie, ce n'est pas l'agitation, ce n'est pas le tumulte des pensées. La vie, c'est de chercher Dieu. La vie, c'est sa parole. Tu ne vivras pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La vie, c'est cela. Arrête-toi pour vivre. Comment peux-tu vivre de la parole de Dieu si tu cours constamment, si tu es constamment préoccupé? Tu es comme un coursier, mais pas engagé dans la bonne course dont parle l'apôtre Paul, comme un coursier avec ce monde. Tu cours avec tout le monde. Et pourtant, Dieu veut faire de toi un roi. J'ai entendu quelquefois des chrétiens, surtout des chrétiennes, je dois le dire. Elles ont quelquefois le propos qui convient, mais n'est pas toujours juste. Il ne sonne pas toujours le son heureux. Des chrétiennes me disent, à moi, je suis fille de roi. Et le dire volontiers au dehors aussi. Je suis fille de roi. Je ne vous conseille pas de saisir cela comme un mode de témoignage, n'est-ce pas? Je ne vous conseille pas du tout. Mais je l'ai constaté. Je suis fille de roi, moi. Je suis fille de roi. Oui. Seulement, la fille de roi a oublié tout simplement le règne. Oublié de régner, n'est-ce pas? Alors, elle est fille de roi. De nom, elle se donne cette qualité. Mais elle n'entre pas du tout dans les prérogatives d'une fille de roi, ni dans la dignité d'une fille de roi. Alors ça ne va pas, vaut mieux dire je ne suis pas, vaut mieux ne rien dire, n'est-ce pas? Que de dire cela, je suis fille ou je suis fils de roi, s'il s'agit d'homme, je suis fils de roi, mais je ne fais rien du tout qui s'attache à la prérogative royale. Mes amis, oui, c'est vrai que nous sommes fils et filles de rois. Et le prophète a dit, je leur donnerai des noms préférables à ceux de fils et de filles, car notre Dieu a pour nous un plan, un programme, je dirais, excusez le terme, des ambitions, de hautes et merveilleuses ambitions, qui vont très loin, très haut. Et il a fait de l'Église un sacerdoce royal. Je ne vous lirai pas les textes, vous les connaissez, elles sont dans la première épître de Pierre, elles sont dans le début de l'Apocalypse, un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Jésus, l'agneau immolé, a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu. Un royaume de sacrificateurs, un royaume, un sacerdoce royal. Pourquoi sacerdoce et pourquoi royal? Parce que la prérogative royale est unie en Jésus-Christ à celle du sacerdoce. Et ces deux prérogatives sont unies. La Bible l'a proclamé dans le livre de Zacharie, chapitre 6. Les deux choses sont unies en Jésus-Christ. Elles sont unies dans l'Église. Un sacerdoce royal. Et ça, alors, laissez-moi vous dire souvent, c'est le dernier de nos soucis. C'est le dernier de nos soucis. Nous allons nous préoccuper des petites affaires de notre intérieur, de notre maison, de nos contacts avec les uns et les autres. ou de nos petits désagréments dans le milieu professionnel. Nous allons nous occuper de ça. Mais le sacerdoce royal est le dernier souvent de nos soucis. Alors que peut faire le Seigneur ? Arrête-toi. Arrête-toi sur cette voie. Arrête-toi. Oh, mais ça, c'est une chose impérative que le Seigneur peut dire à l'Église. Arrête-toi. Est-ce que je te laisse orphelin? Est-ce que je te laisse manquer de quelque chose? Est-ce que tes préoccupations qui vont s'ajouter les unes aux autres, s'amonceler même pour te rendre prisonnier, vont-elles te procurer ce que tu as besoin? Tu seras toujours à la course derrière quelque chose. Tu attendras toujours quelque chose, d'autant plus que tu auras voulu tout résoudre par toi-même au détriment et à l'abandon de cette tâche élevée, spirituelle, que Dieu a préparée, de cette vocation dans laquelle tu as tant de choses à faire. Arrête-toi. Car Dieu voudrait te parler. Le Seigneur Jésus nous a dit dans l'évangile de Jean, dans cette belle instruction du bon berger, que les brebis connaissent sa voix. Les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivent pas un mercenaire, elles ne connaissent pas la voix du mercenaire, mais elles entendent sa voix et le bon berger leur parle. Entendez-vous la voix du bon berger dans votre cœur? Est-ce que le bon berger vous parle? Bien sûr, vous me direz, j'ai l'Écriture. Je regrette profondément une chose. C'est que même dans les milieux évangéliques, on est laissé s'insinuer du rationalisme qui a barré la route au véritable exercice de la foi. On nous a rationalisé l'Écriture tout en nous invitant à croire, à y attacher notre foi. On nous l'a rationalisé. On nous l'a conditionné. Et chers amis, ce qui se faisait autrefois, alors c'est ça qu'on nous dit quelquefois, ce qui se faisait autrefois avant la nouvelle alliance, avant l'avenue de Jésus, ça ne peut plus se faire. Maintenant, c'est fini. Alors comment nous avons ce qui est supérieur, ce qui porte à la perfection? Et le Seigneur aurait arrêté tous ces merveilleux avantages que nous pouvons relever dans les récits de l'Ancien Testament, quand nous voyons que Dieu parle à ses serviteurs, que ses serviteurs le consultent, lui posent des questions, et que le Seigneur se plaît à répondre. Alors les théologiens iront imaginer comment Dieu a pu répondre, parler à Moïse, parler à Jacob, parler à David et autres, comment il a pu faire. Comment il a pu faire? Mais entrons dans l'expérience tout simplement et nous verrons comment le Seigneur va faire. Mais tout ce qui est certain, c'est qu'il nous parlera et il faudrait que nous sachions maintenant que si le Seigneur a parlé autrefois à ses serviteurs, il parle maintenant à ceux sur qui il répand tout esprit, tout son esprit, la plénitude de son esprit. Il parle à toute chair sur laquelle son esprit est répandu. Par une voix intérieure, par une voix amicale, par une voix vénérable, J'ai entendu, et j'ai dans une cassette d'ailleurs un chant, du Borinage, des mineurs du Borinage. Ce sont des hommes que j'aime bien entendre parce que on sent la foi dans leur chant. Et alors ils ont un chant sur la voix du Seigneur Jésus. Elle est admirable, la voix du Seigneur Jésus. Admirable, elle est harmonieuse, disent-ils, la voix du Seigneur Jésus. Il faut croire qu'ils l'ont entendue, cette voix du Seigneur Jésus. Eh bien, à nous de l'entendre aussi, cette voix amicale qui prononce la sagesse, qui barre la route à nos pensées et qui nous dit « Non ! Où es-tu ? Où vas-tu ? Où t'égares-tu ? Où t'enfermes-tu avec de telles pensées ?» Il barre la route à ces pensées-là. Pardon, Seigneur, telle devrait être notre réaction, pardon, Seigneur. Oui, je quittais la voie. J'avais perdu la voie. Mais je reviens, Seigneur. Tu m'appelles. Je reviens. Il barre la route à nos récriminations. Il barre la route au découragement. Et dans une telle situation, rien ne peut s'accomplir. Alors, pouvons dire que, véritablement, l'Église est privée de tout, est privée de tout contact avec son chef, son maître, car rien ne se passe si nos cœurs sont livrés à toutes nos préoccupations, si nous sommes affectionnés aux choses d'en bas, attachés à ces choses d'en bas, et nous marchons en considérant la vie sur la terre, un point c'est tout, ou en nous considérant nous-mêmes, alors là, il n'y a plus de langage, il n'y a plus rien, il n'y a plus de voix du Seigneur, et rien ne peut s'accomplir. Et nous souffrons de cela. Et nous souffrons donc de ne pas avoir su écouter la parole de Dieu, écouter Dieu. Nous souffrons de ne pas avoir écouté Dieu. Arrête-toi. Arrête-toi donc dans ce cycle qui t'emporte, qui emporte ta pensée. Arrête-toi. Arrête-toi et Christ t'éclairera. Il te fera entendre la parole du Père. Il élèvera ton regard qui est toujours baissé, il élèvera ton regard. Il te dira, voilà, maintenant, tu vois, selon la volonté de ton Dieu, tu es entré dans le sacerdoce royal. Le sacerdoce royal. Tu vas faire des choses qui tiennent à la royauté que Dieu a voulu établir parmi son peuple, le peuple de l'Église aujourd'hui, et au sacerdoce, avec ton maître. Tu es entré dans un sacerdoce royal. Arrête-toi, Dieu t'instruira. Dieu te guidera, comme le dit si bien le psaume 32. Je pense que vous avez en mémoire ce psaume 32. Il te guidera. Il veut te oindre de son esprit pour le sacerdoce. Tu avais cru qu'il allait te oindre de son esprit pour que tu aies simplement de temps à autre une petite apparition dans le culte, une prophétie, un parler en langue, une interprétation, une petite lumière, une petite lueur au milieu de tes ténèbres, de ta vie, plongée dans les ténèbres. Non, il veut te oindre de son esprit pour que tu entres dans le sacerdoce royal et que tu l'exerces. Alors, tu deviens fécond pour la vie éternelle. Et tu fais des choses qui demeurent jusqu'en vie éternelle, des choses qui subsistent, des choses qui ne passeront pas. Et tu te sentiras vraiment ressuscité. Tu seras bien dans la vie de résurrection même, alors que tu es dans ce corps. Tu es ressuscité, tu te sentiras ressuscité, tu te sentiras assis dans les lieux célestes en Christ. C'est écrit ça, tu l'as lu, mais l'as-tu senti, l'as-tu réalisé que tu étais assis dans les lieux célestes en Christ? Et alors, tu seras vivant, vraiment vivant, et tu seras vraiment victorieux. Tu souffriras de l'opprobre de ton maître, mais tu ne souffriras pas de l'incurie qui était la tienne dans le commencement peut-être de tes premiers pas. Tu seras vivant, tu seras victorieux, mais arrête-toi et écoute la parole de ton Dieu. Amen.
L'Éternel est au milieu de nous, mais il faut que ce soit non pas une parole prononcée, il faut que ce soit une certitude acquise par la foi et mise en pratique. Nous mettons en pratique la promesse de Dieu. Il est au milieu de nous, nous voulons le croire et nous voulons réaliser sa présence. que nos pensées extérieures soient abandonnées et soyons vraiment tout au culte que nous allons rendre à notre Dieu.
Chantons le cantique 258. Tel que je suis, pécheur rebelle, tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens.
Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. » Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun, donc, s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. » Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Pour faire, ô Dieu, ta volonté, après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Amen. À la lecture de ces textes, nous pouvons tout de suite relever une pensée dominante. Cette pensée, c'est que tout dans ce que le Seigneur Jésus a accompli, en luttant contre le péché, se rendant maître et victorieux de la puissance du péché, en luttant contre la mort, en expiant sur la croix notre péché, tout ce qu'il a accompli. Et nous, tout ce que nous allons accomplir ici de façon si simple, et qui est en relation avec ce que Christ a accompli, bien sûr, nous, c'est tout simple l'accomplissement dans le sens apparent des choses, dans l'apparence des choses, c'est très simple. Mais tout cela, tout ce que le Christ a accompli, tout ce que nous accomplissons, tient à ceci, faire la volonté de Dieu. Il y a un président à tout, justifiant tout, motivant tout, la volonté du Père. Je viens pour faire ta volonté. Tu n'as pas agréé des sacrifices. Ils étaient l'ombre des choses à venir. Ils avaient leur utilité pendant un temps préparatoire. Mais tu n'as pas agréé cela pour le pardon des péchés, pour satisfaire ta justice. Tu n'as pas agréé cela. Alors, dit le Seigneur. Alors, il y a bien cela dans le texte, alors j'ai dit, voici, je viens pour faire ta volonté. Faire la volonté du Seigneur, la faire pleinement, parfaitement, tel était l'accomplissement que le Seigneur Jésus a apporté sur cette terre, pouvant dire sur la croix avant de mourir, tout est accompli. Et nous-mêmes qui avons à accomplir des choses en conséquence de ce grand accomplissement qu'a réalisé le Seigneur Jésus, nous avons à accomplir cela, le Seigneur le veut, mais c'est selon sa volonté. Et il faut donc qu'en accomplissant ces choses, nous puissions nous aussi dire, je viens, ô Seigneur, pour faire ta volonté. Et faire la volonté cela s'établit, cela se tient dans le cœur. Car tout accomplissement qui serait extérieur uniquement, qui ne se proviendrait pas d'une direction intérieure du cœur, situé dans le cœur, ne serait rien. Et le Seigneur Jésus a pu le dire pour son propre accomplissement lui-même, la chair et le sang ne servent de rien. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alors, mes amis, dans les siècles de christianisme, on a voulu revenir et situer l'importance à l'accomplissement, à la chose. On a voulu même voulu placer dans le pain et le vin la réalité, alors que la réalité est dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Mais je le répète, accomplissement qui est d'abord, qui se présente essentiellement dans le cœur. Les dispositions du cœur. Actuellement, maintenant, ce sont ces dispositions de votre cœur qui importent. C'est ce que le Seigneur voit. Il faut que vous mangiez. Il faut que vous buviez. Buvez-en tous, mangez-en tous. Mais le Seigneur, lui, ne va pas regarder la bouchée de pain que vous allez prendre, la gorgée de vin que vous allez absorber. Il le sait que vous le faites, il le voit. Mais ce qu'il va regarder, c'est le fond de votre cœur. Y a-t-il dans votre cœur la rémémoration du « tout est accompli » du Seigneur ? Est-ce cela que le Seigneur va lire dans votre cœur ? Et une reconnaissance, et une action de grâce, et une grande et puissante espérance dans votre cœur. Un cœur qui vient et qui dit « je fais ta volonté, Seigneur ». Ta volonté, elle est maîtresse de tout mon être, car tout ce que tu veux se situe dans la région de l'esprit. Et c'est mon esprit qui est entièrement solidaire du tien, ô notre Dieu. Mon esprit est uni au tien par Jésus-Christ. Alors, moi aussi, je fais ta volonté dans mon cœur. Mes pensées te sont subordonnées, mes pensées, elles te sont livrées, et dans ma pensée, je place ta volonté qui s'est exprimée par ta sainte parole, je mets ta volonté, je connais cette volonté, elle est merveilleuse, elle est bonne. Elle est sainte pour moi, et dans mon cœur maintenant, il y a ce désir de faire ta volonté. J'annonce la mort du Seigneur, qui me vaut de vivre, d'être dans la vie, d'être sauvé par la vie du Seigneur, parce qu'il est mort, parce qu'il est ressuscité. Et tu as demandé, tu me demandes encore, en ce dimanche aujourd'hui, de rappeler cela, de rémémorer cela, ta volonté. Je viens pour faire ta volonté est dans mon être. Elle gouverne toute ma vie, tout mon être, ta volonté, Seigneur. C'est cela, la disposition que le Seigneur veut trouver. Et c'est ainsi que vous discernerez vraiment au fond de votre être, dans votre être intérieur, que vous discernerez le corps et le sang de Jésus. La chair et le sang ne servent de rien. Mes paroles sont esprit et vie. Mais il n'empêche que la chair a été brisée, que le sang a été versé. Mais maintenant, c'est dans le cœur, dans votre cœur, que le Seigneur veut trouver, lire, se réjouir, de rencontrer l'acceptation de sa volonté. Que le Seigneur nous trouve tous dans cette disposition et restons dans cette disposition essentiellement pendant ce temps où nous allons accomplir ce que Dieu a voulu Nous allons manger ensemble saint repas, boire à la coupe de bénédiction ensemble, mais que notre cœur soit véritablement rempli de cette pensée magnifique. Je viens, ô Seigneur, pour faire ta volonté. Gloire et honneur au Seigneur. Amen. Amen.